Les nuits de France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Les nuits de France Culture.
Donner à lire, à voir, à entendre ou à sentir la solitude. Voilà une mission des plus difficiles, un problème que l'art tente de résoudre depuis toujours. Il y a la solitude du héros tragique grec. Ayant appris sa destinée de la bouche de l'oracle, dont les mots sont des vérités absolues, il fait tout pour essayer d'échapper à ce destin. Il se retrouve absolument seul face à ce fatum qui, malgré tous ses efforts, finit toujours par triompher. La solitude, c'est celle d'Œdipe s'arrachant les yeux. C'est l'impuissance devant les forces qui nous dépassent et nous contrôlent. C'est aussi celle de Narcisse qui, mirant son reflet dans l'eau, tombe amoureux de lui-même. Amour réflexif qui efface le monde autour de lui. C'est un violent repli sur soi qui le mène inévitablement à sa perte. Ses forces peuvent aussi être celles de l'imagination, d'un idéal inaccessible qui rend tout contact avec le monde extérieur douloureux et mélancolique, comme dans les plus belles pages d'Atala et de René de Chateaubriand. Il s'agit alors de combler l'abîme de l'existence par une altérité absolue, qu'elle prenne la forme d'une personne idéalisée ou d'une quête mystique. Mais tout n'est pas négatif dans cette solitude, qui, pour certains, peut s'avérer salvatrice. On pense aux rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, qui commence avec ces mots. « Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. » C'est sa solitude qui lui permet enfin de poser sa pensée, de faire l'éloge d'une fusion avec la nature, loin de la persécution ressentie de la société, pour atteindre une forme d'ataraxie. C'est d'ailleurs ce qui est reflété dans de multiples doctrines religieuses, où l'ascétisme et la solitude constituent le mode de vie par excellence pour atteindre la richesse spirituelle et l'union mystique à Dieu. Dans cette nuit, néanmoins, la solitude n'est pas quelque chose d'abstrait, de symbolique, d'artistique ou de religieux. Elle n'emprunte que très peu les voies du mythe et de l'art. La force qui crée la solitude dans les témoignages que vous allez entendre n'est pas mythologique ou divine. Elle ne provient pas de la littérature ou des concepts d'un quelconque philosophe. C'est bien ici le réel qui est à l'œuvre et la réalité d'une société qui crée constamment de la solitude. Chacune des voix que vous allez entendre porte une histoire différente, une singularité qui produit une solitude tout à fait unique. L'expérience est néanmoins universelle et traverse tous les destins de façon tout aussi impitoyable. Un isolement relatif ou absolu, l'absence d'affection ou même de contact avec autrui, la nécessité de continuer à mener sa vie malgré une absence quasi totale de sens ou de bonheur. Des mères seules, des femmes abandonnées, des enfants délaissés, des personnes âgées dont la fin de vie consiste à attendre une mort imminente dans une solitude grandissante, des migrants à des milliers de kilomètres d'un chez-soi qu'ils ne verront plus jamais, cette nuit tente de donner à entendre ces voix enfouies dans l'anonymat de la solitude, que personne ne va chercher et que personne n'entend jamais. Les micros se promènent dans les rues, les maisons de retraite, les appartements mal éclairés et peu chauffés, révélant une double précarité à la fois matérielle et sociale ou affective. On entend également celles et ceux qui se battent contre ce fléau, dont les causes évidentes sont ignorées par l'État, qui se repose sur les associations et leurs moyens restreints, bien trop restreints pour endiguer une épidémie d'une telle envergure. Une nuit d'archives proposée par Mathias Le Gargasson.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La solitude atteint sans doute son paroxysme lorsque l'on sait que les autres sont ensemble. Voir, entendre ou tout simplement imaginer le bonheur d'autrui, sentir l'existence de ces communautés qui nous sont inaccessibles, voilà une expérience aiguë de la solitude. C'est pour cela que les fêtes, Noël ou le Nouvel An, sont des moments particulièrement difficiles et révélateurs pour celles et ceux dont les circonstances les ont poussés à la marge de la société. Il y a aussi une autre forme de solitude, celle qui nous atteint alors qu'on est à l'autre bout du monde, ou sur un rocher isolé au milieu de l'océan, alors que nos proches et tous les êtres qui nous sont chers sont loin. Si aujourd'hui la technologie nous permet, sauf dans les cas les plus extrêmes, de combler ce gouffre par des appels et des messages, il fut un temps où le voyage voulait dire se couper complètement de ses affections et de sa famille. Le soldat déployé dans les tranchées ne survivait que de lettres qui arrivaient à des intervalles irréguliers. Et celle qui partait faire le tour du monde devait attendre son retour pour raconter les merveilles qu'elle avait vues et retrouver ses proches. C'est dans une ère avant l'interconnectivité mondialisée, avant l'avènement des téléphones portables et d'Internet, que se situe cette émission de Roland Dordain, intitulée « Carrefour des solitudes ». À la veille de l'année 1958, le micro se promène dans les rues de Paris, s'introduit chez des particuliers. Des appels sont envoyés dans les montagnes, sur des bases militaires. On y entend un agent de sécurité de nuit, une ancienne star de la chanson, ou encore un jeune soldat tout fraîchement déployé. Autant d'avatars de la solitude auxquels rend hommage cette émission, diffusée pour la première fois le 31 décembre 1957 sur Paris Inter, avec Christian Maigret, Damia, Paul-Émile Victor et Christine Arnotti.
Ici Roland Dordain qui vous parle des studios de la RTF à Paris. Au moment où les réveillons commencent, au moment où tous ceux qui s'aiment ou qui simplement sympathisent s'apprêtent à passer ensemble les dernières heures de l'année, nous avons voulu dédier une partie de notre propre veille de fête à ceux qui sont seuls un tel soir. France 1, Paris Inter, au carrefour des solitudes. C'est l'équipe des reportages de la RTF qui va réaliser les illustrations sonores d'une évocation de Christian Maigret, prix Femina 1957. Christian Maigret qui s'adresse à vous.
La nuit de Noël est une fête de famille. C'est la fête des petits-enfants, parce que c'est la fête de l'enfant Dieu, né à Bethléem, sur la paille d'une étable entre le bœuf et l'âne. La dernière nuit de l'année est, au contraire, une fête tout à fait profane. On voit la différence du réveillon de Noël à celui de ce soir. Celui de ce soir est une fête de grandes personnes. On attend minuit pour échanger des souhaits. On espère que l'an nouveau sera meilleur que l'an qui finit. Ça ne coûte rien d'espérer, l'espoir fait vivre. Ce qui nous occupe ce soir, c'est ceci. Cette nuit est la nuit de l'année où l'on laisse derrière soi tous ses soucis, où l'on se berce de l'espoir que les soucis ne reviendront pas avec l'année nouvelle. C'est une douce illusion, bien sûr, mais ceux qui peuvent entretenir cette illusion ont bien raison de faire la fête pour la Saint-Sylvestre. Une nuit de trêve aux soucis, aux tracas, aux tourments, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, il faut considérer qu'il y a des gens pour qui les soucis ne font pas trêve, même pendant la dernière nuit de l'année. Et parmi ceux-là, parmi ceux qui, en ce moment, n'ont pas le cœur à la gaieté, il y a tous les gens qui sont seuls, soit parce qu'ils n'ont pas de famille, pas d'amis, soit, bien que la compagnie ne leur manque pas, ils sont loin, ils sont séparés de ceux qu'ils aiment. Cette nuit-ci, bien des gens sont seuls au monde, abandonnés, délaissés, orphelins, frappés par le deuil, par la maladie. Bien des gens, cette nuit-ci, sont isolés, solitaires, loin des leurs, ou très occupés par des travaux qui ne font pas relâche le 31 décembre. Bref, songez qu'il y a des gens, un peu partout dans le monde, pour qui la nuit de la Saint-Sylvestre est une nuit comme les autres, ou bien pas tellement différente des autres. C'est à ces exclus de la grande fête de fin d'année que France 1 consacre la présente émission. Il y a toutes sortes de solitudes, morales ou physiques, absolues ou relatives, intolérables ou supportables. Il y a la solitude dans une cellule, il y a la solitude au sein de la foule, il y a la solitude des hommes, des femmes qui connaissent ce malheur que personne ne veut d'eux. Il y a les solitaires, les isolés, les délaissés, les séparés de cette nuit-ci qui est la dernière de l'année ancienne et la première de l'an nouveau. Nous allons vous les faire entendre. Il vous est certainement arrivé de vous trouver tard dans quelque lointain quartier résidentiel de Paris. Il vous est certainement arrivé de rencontrer alors quelqu'un de ces hommes en uniforme, coiffés d'une casquette et qui, poussant une bicyclette, vont de porte en porte afin de vérifier que les serrures sont bien fermées, afin de s'assurer que nul rôdeur n'est en train d'escalader une grille. Les employés des sociétés de surveillance nocturne des immeubles sont d'ordinaire des gens âgés, de petits retraités qui ont choisi ce métier afin d'ajouter un peu à leurs maigres ressources. Chaque nuit, quelque temps qu'ils fassent, ils vont seuls le long des avenues désertes aux volets clos. Et la nuit de la Saint-Sylvestre, ils ne chôment pas, parce que justement, cette nuit-là, les cambrioleurs, eux non plus, ne chôment pas.
À bord de la voiture émetteur de la RTF, c'est Jean Godignon qui est à la recherche dans un des quartiers que Christian Maigret évoquait à l'instant, qui est à la recherche du solitaire de la rue. À vous, Jean Godignon.
Bien, je suis actuellement au coin de la rue Pergolèse et de l'avenue Malakoff. Il fait nuit, seules quelques lumières dans les étages où l'on prépare le réveillon. On n'entend pas de musique parce que les fenêtres sont fermées. À vrai dire, il fait même assez froid ici. Quelques passants assez joyeux sont entrés il y a quelques instants dans un restaurant juste en face de moi avec des huîtres à l'étalage. Mais la rue est assez déserte, sauf les voitures. Assis, une silhouette, un homme qui marche à pied avec sa bicyclette à la main. Il s'arrête de porte en porte. Le voici qui s'approche. Il a une veste de cuir et une casquette. Bonne année, monsieur. Vous allez réveillonner ?
Hélas, non. Je travaille, je suis gardien d'une société de surveillance et j'assure mon service.
Toute la nuit comme cela ?
Toute la nuit, jusqu'à 5h30 de matin.
Eh bien, et le réveillon ?
Ah, le réveillon, qu'est-ce que vous voulez ? On s'en passe, on est habitué à s'en passer.
Mais vous êtes marié ?
Je suis marié, oui, certainement.
Alors la famille, qu'est-ce qu'elle dit ?
Ben, on est obligé de s'arranger autrement, on fait le réveillon un peu plus tard.
Vous le faites quand même ?
Ah, on le fait quand même, mais oui, nos femmes sont bien habituées.
Eh bien, si votre femme vous attend cette nuit en vain, vous promenez dans les rues, vous voyez les gens qui vont s'amuser. À quoi pensez-vous toute la nuit comme cela, voir les autres ?
Ben, évidemment, ça crée une ambiance qui n'est pas ordinaire. D'habitude, ça change l'atmosphère un peu de la rue. Enfin, si vous voulez, on n'a pas le temps parce qu'il faut absolument qu'on assure notre surveillance, des appartements, des locaux. Et alors, c'est mon travail qui commande.
Et je dois dire que sans attendre ma réponse, l'homme est reparti dans la nuit pour sa ronde, son vélo à la main. Je vois sa silhouette s'effacer. Voilà. Dans la rue, il n'y a plus que des réveillonneurs attardés qui passent et des voitures comme tout à l'heure.
Mmh.
La mer est une sorte de désert. Elle a ses oasis qui sont ses ports. Elle a ses nomades, navigateurs, marins, pêcheurs, à la poursuite du poisson qui tend à gagner toujours plus au large vers le sud. Des gars de Boulogne, de Bretagne, du Pays Basque passent la nuit du réveillon bien loin des toits d'ardoise, des bistrots, du crachin de la terre natale.
Nous allons maintenant nous mettre en relation avec Josette Volny à bord d'un chalutier au large de Dakar. Alors attention à vous, Josette Volny.
Ici Josette Volny au large de Dakar à bord du Pourquoi pas. Eh bien, puisque cette émission est consacrée à la solitude, je tiens tout d'abord à vous dire que nous avons passé une pleine journée en mer. Une journée de pêche et une journée de travail. Évidemment, cette pêche a été fructueuse puisqu'ici, il y a énormément de thon et que le Pourquoi pas 2 est un thonnier basque. Mais néanmoins, il y a aussi la part des joies, la part des plaisirs. Et ce soir, nous rentrons à Dakar, nous venons de dépasser Gorée, l'île au passé fastueux, sur laquelle aborda le capitaine de vaisseau Protais il y a 100 ans, au moment de la prise de position de la France en AOF. Je vais maintenant demander au capitaine, avant que nous abordions le port qui est très proche de nous et que nous voyons scintillant de lumière, je vais demander au capitaine quelles sont ses impressions en cette veille de fête, en cette veille de jour de l'an, non presque à la nuit de la Saint-Sylvestre, quelles sont ses impressions de pêcheur éloigné de son pays, de sa famille.
Maintenant, on va s'approcher à la Sopite, on a une jolie pêche. Et puis la pêche en débarquant, on va souper ensemble et tout à l'heure on sortira faire le pita comme tous les jours. Et la pêche, ça donne très bien. Et tout le monde est content et ça va tout en harmonie très bien.
Eh bien, vous travaillez en esprit d'équipe et c'est surtout cet esprit qui vous anime et qui vous tient le moral, n'est-ce pas? Mais est-ce que de temps en temps, vous ne pensez pas à la joie que vous auriez pu avoir d'être pour Noël, ce qui n'a pas été votre cas, et maintenant pour cette nuit de la Saint-Sylvestre dans votre famille?
Oui, si vous voulez, nous sommes très éloignés des nôtres. Quand même, ça nous aurait fait plaisir d'être parmi eux pour passer cette veillée du nouvel an, quoi. Enfin, pour finir plutôt l'année et pour recommencer une nouvelle année, toujours pareil. Enfin, en espérant de commencer la nouvelle année aussi bien que l'autre, c'est terminé.
Eh bien, je vous remercie. Et au fond, voyez-vous, votre vœu sera réalisé, le premier que vous aurez fait pour cette année 1958, puisque grâce au miracle des ondes, peut-être de Saint-Jean-de-Luz vous entendra-t-on, et peut-être vos parents, votre famille, étant à l'écoute, sauront que vous leur avez parlé. Maintenant, si vous le voulez bien, je crois que nous devons entendre un message de l'aumônier des pêcheurs que vous connaissez, M. l'abbé Idiard Tégaray. Ici Dakar, nous écoutons M. l'abbé Idiard Tégaray.
Ici Saint-Jean-de-Luz, Radiodiffusion Télévision Française. Je me trouve dans le petit bureau que l'aumônier des marins de Saint-Jean-de-Luz, M. l'abbé Idiard Tégaray, possède dans la maison de l'Infante, face au port de Saint-Jean-de-Luz, et il va adresser à tous les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz et des environs un salut à l'occasion du Nouvel An.
Mes chers amis, je sais que fidèles aux traditions de chez nous, vous vous êtes réunis par groupe de bateaux pour évoquer des souvenirs chers, vos clochers, vos foyers, et chanter nos vieux chants. Il manquait à votre joie la présence de figures aimées, de vos femmes et de vos enfants. Aussi, c'est au nom de toutes les familles de Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Socoa, Urugne, que je viens vous souhaiter une bonne année, en vous disant du fond du cœur « Urte berri on » et que je charge un petit enfant de 9 ans, le fils de l'un d'entre vous, le petit Peyo, de vous porter nos voeux dans un vieux refrain esquarien.
Gioch te chalbe, ongi et ori, gabondien koak digula, gabondien koak digula etan, urte onean chargaitzala.
Messieurs, je crois qu'il en est parmi vous qui connaissez M. l'abbé Idiard Tégaray et que l'un d'entre vous va leur adresser au nom du Pourquoi pas 2, au nom du Pourquoi pas 2, un message de Nouvel An.
Eh bien, voilà, nous adressons un message du Nouvel An à M. l'abbé Idiard Tégaray.
que nous apprécions tous bien, comme notre aumônier, et nous lui souhaitons des vœux d'une bonne et heureuse année.
Merci, messieurs. Je crois maintenant que vous avez préparé un chant à l'intention des Basques qui, en métropole, ou même peut-être en mer, peuvent vous entendre. Alors, si vous voulez bien, nous allons vous écouter. Nous allons écouter ce chant du Pays Basque adressé au monde, toujours par ce même miracle des ondes.
Toutes les vedettes, toutes les idoles du public n'ont pas la chance de mourir en plein succès. Vient l'âge de la retraite. L'artiste vieilli, qui se survit pour ainsi dire à lui-même, retombe à l'obscurité. Il n'a pas toujours cette bonne fortune que les êtres chers à son cœur aient duré autant que lui. L'âge de la retraite est alors le temps de la solitude, une solitude d'autant plus cruelle qu'elle succède à des années de succès où l'artiste, fêté, célébré, entouré, populaire, n'était jamais seul. Vous allez entendre une grande dame de la chanson, dont le nom demeure dans nos mémoires, mais a disparu de nos affiches.
Et cette grande dame de la chanson, c'est Damia, à qui, ce soir, Edith Lansac a rendu visite.
Tous ces meubles, tous ces objets, tous ces tableaux, tous ces portraits, ce sont des souvenirs pour vous ?
Ah, tout. Presque tout. Presque tout ce que j'ai ici, c'est des cadeaux, même de grands peintres. J'ai un Lursac, vous voyez en face, j'ai un Fujita. J'ai des Max Jacob, j'ai des Jean Hugo, j'ai pas mal de choses très belles. Vraiment, je les adore.
Vous avez les cheveux blancs maintenant, Damien, il y a longtemps ?
Non, ça va faire un an que j'ai laissé pousser mes cheveux blancs. Comme je n'ai plus l'intention de chanter, alors ça m'est égal d'avoir mes cheveux.
Vous ne voulez vraiment plus chanter ?
Non, écoutez, c'est plus possible maintenant. Où chantez-vous d'abord dans les cours ? Puis on ne me donne plus de chansons, je ne fais plus de disques, je fais plus de radio alors.
Comment se passe votre vie, Damia, quotidiennement ?
Moi, je m'occupe de ma maison, j'ai toujours... Vous savez, une femme a toujours à farfouiller un petit peu dans tous les coins chez elle, alors je m'en occupe. Ça me passe le temps, puis je lis énormément.
Vous écoutez la radio ?
Oui, regardez mon petit coin de radio, c'est des sympathiques. J'ai un bon petit fauteuil, puis je m'installe le soir. Mais du reste, avant, j'écoutais pas. Maintenant, j'écoute parce que j'ai le temps.
Mais vous vivez très seule ?
Oui, je suis toute seule. Il y a des années que je vis seule.
Ce soir, vous allez réveillonner ?
Ah non, j'y pense même pas. Je dois dire qu'au fond, on a un métier dans lequel on réveillonnait presque tous les jours. Alors, le réveillon, vous savez, ça amène un jour de plus de sorties tard et c'est tout.
Mais Damia, chez vous, vous avez un magnifique piano, dans une très belle pièce, avec beaucoup de lacs.
Oui.
Autour de ce piano. Vous travaillez pour vous ?
Non, pas en ce moment. Pas que j'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que je travaille pour quoi ? Parce que j'ai rien à faire, alors je ne travaille plus. Mais c'est pas le public, moi, qui me lâche. C'est les directeurs qui veulent de la jeunesse, ils veulent du nouveau, du jeune. Moi, ce qui m'amuse, c'est que ce que je fais, ça n'a pas de mode, c'est classique. À mon époque, l'époque de Maurice Chevalier, puisque j'ai 2 ans de différence avec Maurice, nous avons 2 ans de différence. On était vedettes aux ambassadeurs avant l'autre guerre. J'avais 20 ans, il avait 22. C'est vrai. Eh bien, à cette époque-là, c'était le public qui nous fabriquait, quoi. On avait le public, et puis c'était le public qui acceptait ces artistes. Maintenant, on leur impose les artistes. Il y en a beaucoup qu'on aimerait mieux ne pas entendre. Il y en a qui sont bien, il y en a quelques-uns qui sont bien, mais il y a des chèvres, alors, il y en a pas mal, des chèvres.
Mais quand on vous a annoncé à l'Olympia, il y a 2 ans, ça a été merveilleux comme accueil du public.
Ils m'ont fait passer au mois d'août. J'aurais préféré passer en hiver, moi, quand même. Parce qu'au mois d'août, Paris est vide, surtout qu'il faisait un temps magnifique. Alors, la banlieue était très occupée, et puis il faisait un temps splendide. C'était idiot de me faire passer au mois d'août, surtout qu'il y avait Marie Dubas avec moi, qui est tout de même une artiste qui a fait ses preuves aussi. Il y avait un très beau programme. Mais le mois d'août à Paris, vous savez, c'est pas... On n'a pas Paris, là, à ce moment-là. Alors forcément, moi, je préfère ne pas travailler dans ces conditions-là, j'aime mieux rien faire du tout.
Voici d'autres isolés, les savants, les techniciens du Pic du Midi, où se trouve l'observatoire le plus moderne de France et le relais de télévision le plus haut d'Europe. Pour ces hommes qui explorent le champ des étoiles ou qui apprivoisent les trains des ondes porteurs d'images, la nuit de la Saint-Sylvestre ne diffère guère des autres nuits de l'année. Ils sont fidèles au poste, à leur poste de haute altitude.
C'est Georges Drouet qui va maintenant établir la liaison avec le Pic du Midi.
Allô ?
Allô, oui.
Monsieur Gentilly ?
Allô, oui, bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur, ici Georges Drouet de la Radiodiffusion française. Je vous appelle pour notre rendez-vous des solitaires de ce soir, la nuit de la Saint-Sylvestre, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, parce que nous pensons que vous êtes certainement l'un des solitaires permanents les plus élevés de France, puisque vous êtes au sommet de vos 2860 mètres du Pic du Midi. Comment allez-vous passer la nuit ? Oui, mais alors ce travail, justement, vous devez avoir des compagnons de veille. Je crois que vous avez le Spoutnik, non ?
Oui, mais ça n'est pas exactement de la veille.
Et ensuite, est-ce que vous poursuivez vos observations sur Mars et sur la Lune ?
Non, il n'y a pas d'observation en ce moment. Nous allons calculer simplement les observations que nous ferons du Spoutnik.
Oui.
Pour les envoyer à Paris et aux États-Unis.
Oui, est-ce que, alors, vous ne faites pas en ce moment d'observation sur la Lune ?
Non, ça n'est pas mon rayon d'ailleurs, je travaille sur le soleil.
Voyons, monsieur Gentilly, quel effet ça va vous faire de vous trouver pour cette nuit du réveillon en plein ciel ? Vous y êtes habitué ?
Eh bien non, ça fait la première fois depuis quelque temps. Les autres années, je passais les fêtes chez moi en famille.
Oui.
Mais cette fois-ci, je passe Noël et le jour de l'an au Pic.
Oui, vous avez quelques compagnons là-haut avec vous ?
Nous sommes assez nombreux et l'atmosphère est assez gaie, oui.
Oui. Est-ce que nos camarades de la télévision sont là ?
Je pense qu'ils sont là, oui, tous les jours en permanence.
Oui, et où en sont les travaux actuellement ?
Eh bien, les travaux sont suspendus, c'est-à-dire que l'émetteur provisoire fonctionne.
Oui.
Aussi bien pour la télévision que pour la modulation de fréquence.
Et est-ce que vous avez beaucoup de neige là-haut ?
De quoi ?
Est-ce que vous avez beaucoup de neige ?
Pas énormément, une cinquantaine de centimètres.
Oui, mais vous montez quand même très facilement depuis Bagnères.
Ah ben nous montons au téléphérique.
Oui, mais bien sûr, le téléphérique en deux étapes.
Depuis la Mongie, oui.
Oui. Et est-ce qu'il y a une équipe qui travaille sur les rayons cosmiques de Le Prince Ringuet ?
Oui, il y a en permanence en ce moment trois Français, un Anglais et un Américain.
Mmh. En somme, cette nuit du réveillon s'annonce assez bien ?
Oui, la nuit de Noël a été d'ailleurs très agréable et je pense que celle-ci ce sera pareil.
Bon, alors vous pourrez donc demain, 1er janvier 1958, nous donner des nouvelles toutes fraîches du Spoutnik et des astres.
Oui, si nous l'observons ce soir, juste ce que je crois.
Autre cas de solitude, celui des émigrés qui ont dû quitter leur pays en y laissant des êtres chers. Cela est bien connu. L'administration a trouvé un nom pour eux. Elle les appelle des personnes déplacées. On les compte par centaines de milliers, par millions peut-être, dans le monde depuis une vingtaine d'années, les personnes déplacées. Elles ont franchi des frontières dans la terre glacée, dans l'épaisseur des forêts, sous la menace des gardes, des fils barbelés, des chiens policiers. Ces fugitifs ont rarement pu s'évader en famille. Presque toujours, de l'autre côté des barbelés, ils ont laissé un père, une mère, un frère, une fiancée. De ces êtres chers à leur cœur, ils sont aujourd'hui séparés par des centaines, voire des milliers de kilomètres, mais même par des océans. Christine Arnotti, qui a vécu le drame de la Hongrie, qui a publié sur ce drame qu'elle a vécu adolescente deux livres exemplaires, était mieux indiquée que quiconque pour dire ce que pensent ceux que la terreur a éloignés de leur foyer d'origine.
Il y a 13 ans exactement, j'ai passé le 31 décembre dans la cave humide d'un immeuble de Budapest, et malgré la présence de mes parents, j'étais seule, comme on est toujours seul en face des grands malheurs. Ce soir-là, à Budapest, le ciel était flamboyant, et les cadavres aux yeux larges ouverts, couchés sur la neige sale, regardaient les vivants avec pitié. J'avais 15 ans et je me préparais à mourir. Et je pensais que j'allais mourir sans avoir connu le monde, l'amour et Paris. En quittant la Hongrie, j'ai cru qu'en tant qu'exilé, je serais seul. À Paris, à Londres, à New York, mes compatriotes et moi, nous, les ombres, seuls, enfermés dans la solitude de notre langue maternelle. peuple fier et enthousiaste, héroïque et enfantin dans ses élans, nous, Hongrois, nous pleurons ce soir. Nos chambres d'hôtel sont peuplées de souvenirs, et pour nos regards brûlants, les étoiles d'ici sont les mêmes que celles qui veillent sur les cimetières. Comment réunir maintenant cette grande famille éparpillée? Le fils est au Brésil, la mère est restée à Budapest, la petite sœur est partie au Canada lors des événements de l'autre automne. Le père, lui, est enterré dans la terre hongroise. Il est mort sur le pavé de Budapest. Il y a trop de morts pour les Hongrois et trop de distance entre eux. Nous ne serons quand même pas poursuivis toujours par le malheur. Le bonheur nous guette au coin de la rue. Le bonheur, à la fin, peut apparaître pour nous exilés, hommes, femmes, enfants ou chiens. Il nous apparaît dans un regard, dans un geste, dans une caresse. Nos enfants, élevés à Paris, à New York ou à Londres, parleront leur langue maternelle. Ils la parleront avec un accent peut-être, mais sûrement avec une immense fierté. Nous nous créerons de nouvelles racines ici, à l'Occident. Le temps passe, les Noëls et les années se succèdent, l'arbre scintille sous la neige toujours plus blanche. Les enfants peuvent grandir, les adultes vieillir, les chiens perdre leurs pauvres dents. Nos cœurs resteront toujours éternellement jeunes et nous commencerons toujours de la même façon la même histoire. Il était une fois un pays merveilleux. C'était la Hongrie millénaire, l'immortelle Hongrie.
Des hommes qui ont à la fois l'esprit aventureux et l'esprit positif, des hommes de science qui ont à la fois le goût de l'aventure scientifique et de l'aventure tout court, ont choisi des métiers qui font d'eux des exilés volontaires. Quelque part sur un océan, des Français sont en route pour la Terra Deli.
Nous allons maintenant appeler le Norcelle. Le Norcelle, vous le savez, est ce navire norvégien qui sert de transport habituel aux différentes expéditions en Terra Deli. Nous n'avons pas pu ce soir obtenir, en phonie, c'est-à-dire, nous n'avons pas pu toucher le Norcelle, nous faire entendre et entendre la voix du radio de ce navire. Mais, grâce à la graphie et grâce à l'aimable collaboration des techniciens de la station Saint-Lys Radio, qui en quelque sorte vont nous servir ce soir d'interprètes, nous allons pouvoir poser des questions et envoyer un message de nouvelle année à ces garçons qui pendant 15 mois resteront en Terra Deli. Alors Saint-Lys Radio, voulez-vous traduire? J'appelle le Norcelle, j'appelle le Norcelle. Je voudrais savoir quel est l'emploi du temps des membres de l'expédition, comment ils réveillonneront ce soir.
Alors voici, dans quelques instants, nous allons entreprendre la veillée traditionnelle avec tout un programme de distraction qui a été monté par les membres de l'expédition. Cela commencera par une pièce policière suivie de chants et de jeux, et la soirée prendra fin sur un réveillon auquel l'intendant et le cuisinier ont apporté tous leurs soins depuis plusieurs jours. C'est tout.
Bien reçu, merci. Je vais maintenant vous passer le patron, c'est-à-dire Paul-Émile Victor, qui a tenu à vous présenter ses vœux ce soir et qui est parmi nous.
Roland Dordain, je vous remercie. Allô, Rouillon ? Allô, Rouillon, est-ce que tu m'entends ? Bon,
alors, vous pouvez parler, monsieur,
j'espère que tout va
très bien.
Vous êtes maintenant en route vers la Terra Deli, autant que je peux le savoir. Et par conséquent, votre long périple autour de la moitié du monde est terminé. Les jours et les nuits de tempête sont derrière vous, quoique vous puissiez encore rencontrer du mauvais temps entre la Nouvelle-Zélande et la Terre Adélie. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. À cette occasion, nous pensons beaucoup à vous, mais nous pensons beaucoup, bien entendu, et je dirais presque surtout à ceux qui viennent de passer une année, l'expédition de Humbert et ses camarades, en Terre Adélie. Ils viennent de passer une année dans les conditions qui vont être les conditions de vie que vous allez connaître d'ici peu. Pour eux, dans quelques mois, ce sera le retour vers leur famille. Pour vous, au contraire, vous êtes au seuil de cette première année. Vous ne rentrez qu'au mois de mars 1959, donc par conséquent dans 14 mois environ. Ce sera la première nouvelle année de deux nouvelles années que vous allez passer loin de votre famille. Et c'est pourquoi tous ceux qui vous aiment bien, que ce soit vos femmes et vos enfants pour ceux qui en ont, que ce soit vos fiancés pour ceux qui sont fiancés, que ce soit tous les autres et les membres des expéditions polaires françaises, nos camarades qui sont ici ou les jeunes filles qui travaillent avec nous, nous vous envoyons nos meilleurs voeux les plus affectueux pour que cette année soit à la fois fructueuse et agréable.
Ici Rouillon, merci, merci beaucoup, vieux.
Il y a des gens qui sont en prison en ce moment. Nous n'avons pas à les juger, c'est déjà fait. La société les a jugés. Ils paient pour leurs fautes, plus ou moins cher, très cher quelquefois, que celui qui est sûr de ne jamais aller en prison leur jette la première pierre. Mais il y a aussi des gens qui sortent de prison ce soir. Comme on dit, ils ont payé leurs dettes envers la société. D'un homme désagréable, on dit qu'il est aimable comme une porte de prison. J'imagine que la porte qui s'ouvre devant l'homme qui est quitte envers la société doit avoir quelque chose d'aimable. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte? Une femme, une mère, un copain? Dans la plupart des cas, oui. Mais parfois, il n'y a personne du côté de l'air libre. La liberté retrouvée s'offre alors sous la forme d'un désert. Écoutez plutôt.
Nous allons écouter Clara Candiani, qui ce matin a rencontré le prisonnier libéré ce 31 décembre.
Vous êtes sorti ce matin de prison ?
Oui, madame.
Je m'excuse de vous poser la question, mais vous y étiez depuis longtemps ?
4 ans et 6 mois, exactement.
Par conséquent, coupé de la vie ?
Coupé de la vie complètement, sans nouvelles de l'extérieur pendant toute cette période.
Et qu'est-ce qui est le plus pénible quand on se retrouve comme ça, comme vous vous retrouvez aujourd'hui ?
Le manque d'habitude de la vie réelle, la vie civile, si l'on peut dire, dépaysement et puis un complexe qui nous fait qu'on a l'impression que tout le monde vous regarde. Tout le monde, d'abord on est plus ou moins mal habillé, plus ou moins fripé, on n'a pas l'habitude de l'argent, on n'ose pas, on est indécis. Tout le côté, on hésite toujours et l'hésitation nous fait faire encore d'autres bêtises, nous font gâcher le pauvre pécule que nous avons amassé assez durement pas mal.
En 4 ans, qu'est-ce que ça représente, le pécule ?
Je suis sorti avec 22 000 francs en 4 ans même. J'ai payé, il est vrai, mes frais de justice. J'ai tout payé. Mais je gagnais 90 francs par jour. Net à moi. Alors vous voyez que, en fumant un peu, en s'achetant de temps à autre une bricole, paquet de cigarettes, tablette de chocolat pour pouvoir améliorer l'ordinaire qui est toujours le même, il est assez dur d'amasser de l'argent.
Vous avez de la famille ?
J'ai de la famille, j'ai mes beaux-parents qui élèvent mes enfants, que ma femme
est morte.
Vous
avez combien d'enfants ?
3. Bon, 2 parce que la petite fille est morte il y a un an.
Pendant que vous étiez en prison ?
Pendant que j'étais en prison. Et j'ai écrit, on ne me répond même pas. N'est-ce pas ? Maintenant je suis un déclassé, je suis un réprouvé. Alors maintenant je suis complètement seul. Mes enfants, je retournerai les voir lorsque mes moyens me le permettront. Mais ils ne me permettent pas encore.
Mais ce soir, vous ne savez pas où vous allez aller ?
Aucunement. Je me promènerai pour essayer de tuer l'ambiance de la prison qui restait en moi et fuir mes anciens camarades, parce que ce n'est pas des relations. Ils ont toujours les mêmes conversations et j'en ai, excusez-moi le mot, soupé.
Qu'est-ce que c'était, votre métier ?
Je suis dessinateur industriel, licencié en maths SP. Et ce n'est pas une carte de visite, une carte de recommandation que je peux présenter. Au contraire, c'est un handicap.
Pourquoi ?
Ben, partout où je me suis présenté pour travailler, j'explique ma situation lorsque j'ai affaire à un chef de personnel ou à un directeur ou à un patron. Je lui explique franchement la situation. Je ne demanderai qu'une chose, qu'il me fasse confiance. Et moi, en faisant confiance, je ferai le maximum pour mériter cette confiance. Et oublier mon passé. Repartir, c'est un vrai départ à zéro que je fais.
Quel âge avez-vous ?
36 ans.
Bah écoutez, je vous souhaite que cette émission n'aura pas été en vain et que peut-être la chance que vous n'avez pas eue aujourd'hui, vous l'aurez demain.
Je voudrais que madame, vous ayez raison et ça me redonnerait un peu de courage.
Il existe à Libourg un centre d'écoute de l'ARTF. Encore un métier qui ne fait pas trêve un seul instant tout au long de l'année. Ce soir, un homme est seul au centre d'écoute de l'ARTF. Étrange solitude en vérité, puisque cet homme est relié au monde entier, puisqu'il est à l'écoute des 5 continents, dont il recueille en 100 langages divers les musiques joyeuses, les airs de fête.
En effet, je vais appeler le centre d'écoute de Limourg, et je vais demander à Monsieur Dumas de venir en ligne à ce rendez-vous des solitaires. Allô, Monsieur Dumas ?
Oui, bonsoir.
Alors, vous êtes de service ce soir ?
Oui, nous sommes de service, oui.
Et vous n'êtes pas tout seul, n'est-ce pas ?
Oh non, loin de là, non.
Vous pouvez vous distraire et écouter toutes les musiques qui vous plaisent.
Ma foi, dans les heures de loisirs, oui, mais enfin, nous pouvons attraper le monde entier.
Est-ce que vous voulez bien nous faire une petite expérience pour nous tous ?
Ben, ma foi, nous allons essayer.
Alors, quelle est la première radio que vous allez capter pour nous ?
Ben, pour l'instant, nous allons essayer de voir du côté de la Russie.
Передача «Новая песня» окончена.
Tu regrettes, vois-tu, petite Ninon, si t'es bien dans ses bras, t'as raison. Ce n'est pas une vie sans amour. Approcher une folie, fais ta tête de la joie pour toujours. Alors, ma Ninette, faut pas que tu regrettes. Dis-toi que les bonheurs perdus ne se retrouvent jamais plus, ma Ninette, jamais plus, ma Ninon. Alors, ma petite Ninette, t'as raison.
Кемень. Попурри вальсов. Исполняют венгерская певица Мария Дюркович, хор и оркестр.
Et où allons-nous maintenant en Europe?
Ben ma foi, oui, si nous voulons, on va changer. Nous allons du côté de l'Italie en ce moment, vous allez voir.
Marisa del Frate, accompagnata dall'orchestra di Armando Fragna, ha cantato Storta va dritta bene di Romeo Sguiglia Petrucci. È il programma di canzonette napoletane.
Et nous appelons quoi maintenant?
Ben nous allons voir du côté des USA pour voir, nous allons changer, on va passer de l'autre côté pour voir.
Allons-y.
Thank you.
composed and introduced by Charlie Barnett, as played by Jackie Gleason and his Velvet Brass Ensemble. This is Music USA from the Voice of America.
Merci, Monsieur Dumas. Grâce à vous, nous avons pu constater qu'à l'Ouest, qu'à l'Est et qu'en Europe, et nous l'espérons partout dans le monde, on s'apprête à réveillonner joyeusement dans une atmosphère internationale détendue. Merci Limour et bonne année.
Il est des solitudes qui ne sont que temporaires, par exemple celle du soldat mobilisé en terre lointaine. Pour être temporaire, elle n'en est pas moins cruelle. Est-il besoin de préciser davantage ? Dans bien des foyers français, ce soir, il y a une place vide, celle du jeune homme appelé en Algérie par le devoir militaire. France 1 va vous faire entendre un de ces jeunes soldats et le mettre en communication avec son père, autre solitaire lui aussi, puisqu'il a récemment perdu sa femme.
Eh bien, pour beaucoup de jeunes Français, le réveillon, cette soirée du 31 décembre, sera la première soirée de soldats. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été appelés sous les drapeaux ces trois derniers mois, et ce soir, nous allons essayer d'en appeler un. C'est un soldat parmi tant d'autres qui va nous répondre d'Oran, car évidemment, ce duplex, cette conversation que nous allons entreprendre dans quelques instants, nous la dédions à tous les soldats d'Algérie. Et je vais appeler à Oran le tirailleur Jacques Vinstin. Et dans le studio 52 de Paris, j'ai invité son père. Alors j'appelle Oran. Jacques Vinstin, êtes-vous là ?
Oui, Roland Dordain, je vous entends très bien.
Eh bien, je vous passe immédiatement votre père.
Très bien.
Jacques ?
Oui, bonjour. Bonjour papa.
Comment vas-tu ?
Très bien.
Bon, le réveillon de Noël, s'est-il bien passé ?
Oui, ça s'est très très bien passé. Nous en avons fait un à la caserne.
Oui.
Où il y a eu un spectacle organisé par l'armée. Et à 1h du matin, ils nous ont offert un réveillon.
Eh bien, écoute.
Un souper, oui.
Je pense que tu m'écriras des détails.
D'accord.
N'est-ce pas ?
Attends, surtout ce que je veux signaler, c'est que le lendemain, j'ai eu la chance d'être invité par une famille de Français algériens pour passer la journée de Noël en famille.
Et comment c'est arrivé, ça ?
Eh bien, tout à fait par hasard. J'étais dans un snack bar et un civil m'a proposé de passer la journée chez lui.
Des gens très gentils ?
Oh, très très gentils.
Eh bien, écoute, j'en suis ravi pour toi, ça me fait plaisir.
Oui.
Et j'espère que pour le 1er janvier, tu auras la même chance.
Oui, 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 mais d'ailleurs, je suis déjà invité dans cette famille pour le 1er janvier.
Eh bien, écoute, ça fait plaisir de voir que les gens, que les civils au moins sympathisent avec vous.
Oui.
Pourriez-vous nous dire quel est l'état d'esprit de vous et de vos camarades ce soir du 31 décembre ?
Eh bien, l'état d'esprit de nos camarades, tout au moins de mes camarades, on se sent quand même un peu isolé de la France. Bien qu'on ne soit pas dépaysé, c'est tout neuf encore, c'est tout prêt. On vient de quitter nos familles il y a à peine 2 mois et on tombe juste à Noël, qui est une fête de famille, et on s'ennuie un peu.
Eh bien, je vous remercie de ce témoignage. Je vais maintenant m'effacer à nouveau. Je vais repasser le micro à votre père parce que vous avez peut-être des vœux à lui adresser.
Ah oui, 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 oui. Eh bien, papa, pour le jour de l'an, je te présente tous mes vœux et je t'embrasse bien fort.
Eh bien, Jacques, je t'embrasse aussi et je te remercie énormément.
D'accord.
Et d'autre part, j'en profite pour te remercier de toutes tes grandes lettres qui me font énormément plaisir.
D'accord, je continuerai.
Eh bien, nous aussi, Jacques Vinstin, nous vous présentons tous nos vœux, ainsi qu'à tous vos camarades, jeunes et anciennes recrues, qui servent actuellement en Algérie.
Voici maintenant d'autres lieux où, depuis des temps immémoriaux, régnait la plus absolue des solitudes. C'est le désert où le dialogue de la terre et du ciel n'est que silence. Mais voici qu'à une date récente, l'homme muni d'instruments et d'outils est venu là prospecter l'étendue désolée des sables sans habitants. L'homme a découvert sous l'aride surface de la terre des trésors et notamment le très précieux pétrole. Le soir de la Saint-Sylvestre, il y a des hommes perdus dans le désert, près de la foreuse, près du Derrick. Il y a ça et là un homme seul, accablé par les travaux et la chaleur du jour, et qui rêve sans doute à la France.
Nous allons maintenant essayer de nous mettre en communication avec le Sahara. Vous savez que c'est au Sahara que réside peut-être l'essentiel de l'espoir des Français pour l'année 1958. Et nous ne savons pas, nous ne saurons certainement pas ce soir quand coulera le pétrole saharien, le pétrole d'Assimé Saoud, quand on ouvrira les vannes. Mais ce soir, nous avons quand même voulu passer quelques instants, ainsi que notre envoyé spécial lui-même, Jacques Vigneux, qui se trouve à Assimé Saoud et qui a voulu passer son réveillon du 31 décembre avec le spécialiste qui attend un ordre, celui d'ouvrir les vannes. Eh bien maintenant, je vais appeler OM1, Assimé Saoud, où nous attend Jacques Vigneux. Allô, ici Paris, j'appelle OM1 à Assimé Saoud.
Ici Vigneux qui vous parle de la base OM1 à Assimé Saoud.
Alors Vigneux, je pense que il y a une atmosphère. Allô Jacques Vigneux, je voudrais que vous nous décriviez l'atmosphère exceptionnelle qui doit régner ce soir à Assimé Saoud.
Eh bien écoutez, l'atmosphère de jour de l'an ici est un peu l'atmosphère de tous les jours. Tout le personnel travaille comme à l'habitude, car ici, il n'y a absolument aucun arrêt.
Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que la lune brille?
Eh bien, écoutez, pour l'instant, il fait assez froid. Nous devons avoir environ moins 2, moins 3. Et je pense que dans la journée, nous aurons demain entre 15 et 17 degrés.
Voulez-vous nous décrire l'ambiance qui règne ce soir à Assimé Saoud? Allez-y!
Eh bien, ce soir, à Assimé Saoud, l'ambiance est exactement semblable à l'ambiance des autres jours. Le personnel rentre pour dîner et se coucher.
Bien que disposant d'un casque, je me rends compte que la réception n'est plus très bonne maintenant et je vais essayer de traduire pour vous qui ne disposez pas de ce casque. Ce soir, à Assimé Saoud, on travaille comme tous les soirs, peut-être un peu plus fébrilement, car la mise en service du pipeline est pour bientôt. Il y a près de monsieur, de Jacques Vigneux, il y a un prospecteur de pétrole. C'est un Alsacien comme beaucoup d'entre eux. Allô? Allô? Allô, monsieur Weber?
Oui?
Monsieur Weber, vous pouvez ce soir présenter vos vœux, souhaiter la bonne année à votre famille. Vous avez le micro de la RTF à votre disposition. Je vais maintenant à nouveau traduire car la réception redevient mauvaise. Monsieur Weber, qui a 4 enfants, 4 fils, attend vers le 10 février un 5e enfant et il demande à sa femme une petite fille. Voici donc d'Assimé Saoud le souhait de Monsieur Weber à sa femme, une petite fille pour le 10 février. Eh bien, c'est sur ce souhait de Monsieur Weber d'Assimé Saoud que nous allons prendre congé du Sahara. Merci Jacques Vigneux, nous vous avons reçu à peu près.
Enfin, un autre genre de solitude, c'est la solitude initiale, originelle, celle de la naissance. Nul ne choisit la date de sa naissance. On est aussi bien, on est tout autant le 31 décembre, le 1er janvier, que n'importe quel autre jour. Toute vie commence par un cri d'effroi, comme si le nouveau-né savait que la vie est redoutable. Mais ce cri est en même temps un cri d'espoir, puisque le premier moment de la vie est aussi celui où des bras tendrement recueillent le petit de l'homme.
Et c'est à Max Petit maintenant que nous allons passer la parole. Max Petit qui a introduit le micro du Carrefour des Solitudes dans une maternité.
Nous sommes ce soir dans une maternité de Paris, au cœur de Paris, et nous allons demander aux médecins qui sont là et aux sages-femmes de nous parler justement de ce que représente pour eux et pour elles cette nuit de réveillon passée loin de leur famille, loin des êtres qui leur sont chers, pour la tâche qu'ils ont choisi d'accomplir. Docteur.
Je crois que la question d'accouchement prime le réveillon et qu'en plus, si nous sommes un peu déçus de ne pas passer le réveillon au milieu d'amis qui nous avaient accueillis chez eux ou que nous accueillons chez nous, nous sommes ravis de pouvoir mettre au monde un enfant et donner l'espoir à une nouvelle famille en France en ce terme de cette année.
Et mademoiselle, vous tout de même, vous êtes la plus jeune, vous aimeriez peut-être danser même le rock and roll ce soir, et vous êtes là, vous donnez vos soins aux femmes qui attendent leur bébé d'un instant à l'autre, ou celles qui viennent d'en avoir un. Qu'en pensez-vous très franchement? Est-ce que ça vous ennuie?
Non, très franchement, ça ne m'ennuie pas. Je ne regrette pas d'être de garde. Et...
Il y a quelques instants, mais vraiment quelques instants, un enfant vient de naître et nous voudrions terminer ce reportage sur le cri de cet enfant qu'on nous amène maintenant. Nous sommes tout prêts maintenant, nous sommes à la porte de la salle de travail.
La solitude, il se peut que je sois un spécialiste, un connaisseur de la solitude. Mais la radio, où je ne suis qu'un profane, m'a appris ce soir qu'il y a un remède à la solitude dont je ne soupçonnais pas l'efficacité. Et c'est justement la radio.
Vous avez rencontré ce soir Christian Maigret, Christine Arnotti, Damia, Paul-Émile Victor et les personnes invitées au carrefour des solitudes.
L'équipe des reporters de la RTF était représentée par Jean Godignon, Josette Volny, Edith Lansac, Georges Drouet, Clara Candiani, Jacques Vigneux et Max Petit. Présentation de Christian Maigret et Roland Dordain. Collaboration technique de André Dumas, chef du centre d'écoute de Limours, Albert Laracine et les techniciens des services des reportages. Direction artistique de Jean Garetto.
C'était Carrefour des solitudes, une émission de Roland Dordain diffusée pour la première fois le 31 décembre 1957 sur Paris Inter.
Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La solitude n'est pas un phénomène nouveau. C'est un sentiment, une réalité que l'on retrouve représentée dans les productions culturelles de toutes les époques, à tous les endroits. Un fléau universel donc, auquel il est difficile de trouver de vraies solutions. Car comment combler l'abîme de celui ou de celle qui, terré chez soi, ne sort plus dans un monde qui a oublié son existence? En 1960, en France, l'esquisse d'une réponse, à petite échelle bien entendu, voit le jour avec la création de l'association SOS Amitié. Née de la rencontre entre le philanthrope Jean Lilaz et le pasteur Jean Casalis, ainsi que son épouse, SOS Amitié est une permanence téléphonique, ouverte à toute heure du jour et de la nuit,